Les dossiers Construction 21, regard croisé sur le bâtiment et la ville durable.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des dossiers de construction 21. Nous allons aujourd'hui, dans le cadre des deux tables rondes, évoquer avec nos invités le sujet de la mobilité décarbonée, mais aussi de ses enjeux et de ses solutions. Clairement, à l'horizon 2050, un cap a été fixé. Zéro émission nette de carbone pour la France. La mobilité urbaine est donc particulièrement concernée, tant ses circulations que la construction des véhicules et des infrastructures qui contribuent aujourd'hui grandement aux consommations d'énergie et aux émissions de carbone. Nous allons donc, grâce à la participation et aux diverses expertises des invités du jour, nourrir la réflexion sur les enjeux de la mobilité durable, les changements d'usage, mais aussi les solutions qui s'avéreront les plus adaptées à l'avenir, ainsi que les modes de financement. Information importante, avant de démarrer cette émission, ce dossier a été réalisé en collaboration avec le Lab Recherche Environnement de Vinci Paritech et le CEREMA. Quatre experts ont participé à structurer, en tout cas, ce dossier et à assurer la rédaction en chef, je vais d'ailleurs les citer. Fabien Laurent, professeur à l'école des ponts Paritech et recherche et chercheur pardon, HDR au laboratoire Ville, Mobilité et Transport, dont il a été cofondateur. Il sera avec nous d'ailleurs tout à l'heure. Nicolas Coulombel, maître de conférence à l'école des ponts Paritech et chercheur au laboratoire Ville, Mobilité et Transport. Katia Renesson, qui sera avec nous également tout à l'heure, chargée de mission voirie pour une ville durable au CEREMA. Et enfin, Laurent Jardinier, chargé de mission recherche et approche nouvelle sur le champ mobilité et transport. Alors avant de démarrer cette première table ronde, petite présentation justement de ce dossier mobilité qui est riche en enseignements et nous allons justement faire un point avec vous, Fabien Laurent. Bonjour Fabien Laurent. On ne vous entend pas Fabien, il faut déconnecter votre micro s'il vous plaît. Bonjour Fabien.
Pardon.
Très bien. Bonjour. Alors donc je rappelle que vous êtes professeur à l'école des ponts Paritech et chercheur HDR au laboratoire Ville, Mobilité et Transport. Donc vous êtes le cofondateur. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous présenter le Lab Recherche Environnement Vinci Paritech et surtout les grandes orientations de ce dossier?
Oui, volontiers. Alors je préciserai tout d'abord que j'ai effectivement cofondé le laboratoire Ville, Mobilité et Transport qui est commun entre l'école des ponts Paritech et puis l'université Gustave Eiffel.
Oui.
Mais j'ai rejoint depuis le début de cette année le Centre international de recherche sur l'économie et le développement, le CIRED, auquel l'école des ponts participe également et qui est justement centré sur des enjeux environnementaux pour le très long terme. Je dirais donc ce passage de la mobilité à la durabilité situe bien mes intérêts de recherche. Alors, le Lab Recherche Environnement, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un partenariat entre le groupe Vinci, que je n'ai pas besoin de présenter,
oui.
Et puis trois écoles de Paritech, l'école des mines.
Ah, on a perdu Fabien Laurent. C'est pas grave, on récupérera Fabien Laurent tout à l'heure. On va passer à vous, Katia Renesson, chargée de mission voirie pour une ville durable au CEREMA. Vous nous présentez le CEREMA dans un premier temps, s'il vous plaît, Katia?
Oui, bonjour. Eh bien, le CEREMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui apporte un appui scientifique et technique pour élaborer, mettre en œuvre, évaluer sur les territoires les politiques publiques de l'aménagement et du développement durable.
Oui.
C'est un établissement public qui travaille pour l'État, pour les collectivités territoriales, donc de plus en plus d'ailleurs, pour les entreprises, avec comme fil conducteur la transition écologique et l'adaptation au changement climatique.
Très bien. Alors, vous avez fait un choix de maître hein, pour gérer ces dossiers. Comment vous avez fait pour retenir justement les candidats, voire les experts qui ont participé à ce dossier?
Alors, pour la construction de ce dossier, donc, nous avons sollicité différentes personnes au sein d'organismes très variés, tels que des universités, des centres de recherche, des
oui.
groupes de réflexion, des collectivités, des établissements publics, des bureaux d'études, des entreprises, afin que ces personnes partagent leur expérience et leur retour d'expérience, et leur expertise, pardon, et leur retour d'expérience.
Oui.
Au total, donc, nous avons rassemblé 32 articles et aujourd'hui, nous avons avons sélectionné 5 contributions, donc 5 intervenants que nous avons répartis en 2 tables rondes. Une première table ronde qui est introductive et générale et qui porte sur les enjeux, les principaux leviers pour décarboner les mobilités.
Oui.
Et une deuxième table ronde qui, cette fois-ci, est plutôt axée sur les solutions en matière de partage de la voirie. Et nous avons choisi de mettre à l'honneur, d'une part, les solutions qui favorisent la pratique de la marche et du vélo, qui sont des modes de déplacement extrêmement sobres en carbone, qui sont des modes de déplacement de proximité, mais pas uniquement, hein, puisque, comme ce sera dit tout à l'heure, le vélo est aussi une solution très efficace de déplacement dans les zones de moyenne densité et aussi les zones peu denses. Et puis, donc, par ailleurs, nous avons souhaité également parler des solutions qui appellent des modes de déplacement plus vertueux en périphérie des grandes agglomérations, avec une intervention qui est prévue sur la création de voies de circulation réservées sur autoroute ou voie express, réservées pour les besoins des transports collectifs, du covoiturage ou des véhicules à très faible émission. Donc voilà un petit peu la structure des deux tables rondes.
Parfait. Donc des intervenants avec lesquels on va faire connaissance dans quelques instants. Mais Fabien, Laurent, on vous a perdu tout à l'heure. Vous voulez reprendre vos propos ? Allez-y, je vous en prie.
Oui. Donc j'étais en train de situer le laboratoire recherche environnement, partenariat de Vinci et de ParisTech.
Oui.
Donc nous sommes trois écoles de ParisTech, trois écoles d'ingénieurs de ParisTech à contribuer à ce lab recherche environnement, qui traite de bâtiments, d'énergétique, d'analyse de cycle de vie. AgroParisTech aussi, qui va traiter de la nature, de la biodiversité, de l'agriculture en ville. Mm-hmm. Et puis l'École des Ponts, elle, s'intéresse à la mobilité, à l'aménagement et à l'urbanisme. Alors pourquoi ces trois écoles en partenariat avec Vinci ? Le Lab Recherche Environnement s'est appelé aussi CHER Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures. Ces choses-là, que ce soit des bâtiments, ce sont des équipements en fait de nos sociétés pour sa vie quotidienne, des équipements qui sont investis pour le très long terme, au même titre que les routes, que les chemins de fer, au même titre finalement que les matériels roulants qui ont une très longue durée de vie, tels que des trains ou des autobus. Donc tout cela, ça s'organise. Et puis, comme on les utilise dans notre vie quotidienne, il faut faire attention à quelles sont leurs performances pour l'environnement et en particulier leur impact sur le climat. Voilà les choses que nous traitons dans le Lab Recherche Environnement. Et donc, nous avons été ravis de pouvoir contribuer à l'animation de ce dossier.
Très bien. Fabien, Laurent, vous allez rester avec nous puisque vous participez à la première table ronde. Et je vais également proposer à Katia, sauf si elle a quelque chose à rajouter, de rester avec nous également. Katia, vous voulez rajouter autre chose ?
Non, c'est bon pour l'instant.
Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de démarrer cette première table ronde sur décarboner nos mobilités, enjeux et principaux leviers.
Les dossiers Construction 21, première table ronde.
Alors, on va continuer avec vous, Fabien Laurent, et on va surtout évoquer l'article que vous avez coécrit avec les rédacteurs en chef du dossier, je crois. Vous confirmez ? Très bien. Alors, donc, c'est un article qui aborde les principaux enjeux de la mobilité décarbonée au regard de l'actualité et les clés pour relever le défi. Je vous laisse la parole.
Oui, alors, déjà, peut-être partir du constat que la mobilité, c'est l'affaire de tous. On est tous utilisateurs, soi-même, au titre personnel, comme voyageurs, mais aussi quand, depuis chez nous, on se fait livrer ou quand, après, on achète des produits dans des magasins. Donc, nous sommes tous utilisateurs, c'est notre affaire à nous, et nous sommes relativement bien dotés, dans notre pays, en France, dans nos différents territoires. C'est pas forcément aussi bien développé partout, mais nous avons quand même des solutions de transport performantes, efficaces pour les usagers, et donc qu'il s'agit de rendre compatibles avec les enjeux environnementaux de la planète.
Oui.
De la planète. Donc, cette conscience qu'il faut adapter nos systèmes de manière à rentrer dans une espèce de budget d'émissions carbone pour la France, compte tenu de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, cette conscience se diffuse de plus en plus. Ce qui fait que beaucoup de personnes ont envie de contribuer à relever ce défi. On l'a vu récemment avec la Convention citoyenne sur le climat.
Tout à fait.
Il y a une large part des dispositions, des recommandations en fait de cette commission qui concerne la mobilité. On sent bien qu'il y a là quelque chose à réorganiser, à faire évoluer. Alors, ça se retrouve dans notre dossier, dans la partie finale, qui traite de comment se concerter, comment réfléchir ensemble, comment préparer ensemble l'adaptation de notre système de mobilité. Alors, on situe ça dans le temps en pensant au très long terme. Effectivement, on est en train de dire engagement à l'horizon 2050, si on met de carbone.
Oui.
Et ça commence maintenant, et même ça a déjà commencé. Il y a vraiment cette question d'échelle temporelle qui est importante et de rentrer dans l'action, d'adapter progressivement nos systèmes. Donc ça, on en parlera en particulier avec la table ronde relative au partage de la rue, de l'espace de circulation et de stationnement. C'est vraiment tout à fait important de donner aux différents modes des bonnes conditions de circulation, de mesurer un peu la place de chaque mode, de revenir en arrière par rapport à ce que la génération précédente a fait, à savoir donner énormément de place à l'automobile sans forcément se rendre compte que ça n'allait pas être soutenable.
Évidemment, qu'on allait arriver à saturation, ça c'est sûr.
La saturation, et vous savez, alors, la perception des enjeux, elle évolue progressivement.
Tout à fait.
Il y a 10 ans, on ne parlait pas tant que ça de climat. Mmh. Il y a 10 ans, on commençait à en parler quand même déjà pas mal. Il y a 20 ans, ce qui nous préoccupait beaucoup, c'était le renchérissement du pétrole.
Oui.
C'était cette impression que les gisements allaient s'épuiser, qu'on n'en aurait pas assez pour tout le monde. Mais en fait, on en a assez du carburant fossile. Le problème, c'est que les émissions de carbone qu'entraînent leur combustion, ça ne marche pas. On n'a pas un budget infini d'émissions de carbone. Et donc, il faut qu'on organise les choses différemment. Alors, dans le dossier, de quoi on parle? Alors, il y a donc cette réflexion sur quelle place faire aux différents modes dans l'espace public, des voies de covoiturage, par exemple. Des pistes cyclables, bien sûr. Comment donner aux différents modes des bonnes conditions de circulation.
Mmh.
J'insiste sur le fait que les conditions de circulation qu'on a fait à l'automobile sont quand même remarquablement bonnes. Quand on est pris dans des embouteillages, on peste. On est tous comme ça, bien sûr. N'empêche, on est dans sa voiture, on est assis confortablement, en sécurité, protégé de la pluie. On a quand même des conditions sacrément confortables.
Oui.
Et en plus, mine de rien, on n'a pas besoin de naviguer entre d'autres véhicules comme sont souvent obligés de le faire les vélos.
Et les scooters.
Voir les piétons qui ont souvent leur trottoir encombré. Oui, tout à fait, les scooters.
Et les scooters, oui.
Donc, on fait quand même des belles conditions encore à l'automobile et on voudrait donner aux autres modes de transport la possibilité, comme ça, d'avoir des trajectoires suffisamment
En fait, une place à part entière. Hein.
Suffisamment...
Mmh. Très bien.
Voilà, exactement.
Très bien.
Donc, ça se dira. Et puis, sinon, on a des solutions technologiques, effectivement, dont on pourra parler.
Alors, pour compléter vos propos, Fabien Laurent, on va accueillir Aurélien Bigot. Bonjour, Aurélien.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la chaire énergie et prospérité. Alors clairement, la France s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone et une décarbonation, quasiment, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est ça Aurélien?
Décarbonation
quasiment complète du secteur des transports à l'horizon 2050. Et justement, vous avez évoqué dans l'article sur lequel vous êtes intervenu les 5 leviers à mobiliser pour réussir la décarbonation des transports. Alors vous pouvez nous dire quels sont ces 5 leviers? Pour commencer.
Alors, en effet, l'objectif de la stratégie nationale bas carbone française, c'est donc d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de l'économie. Et pour les transports, c'est une décarbonation quasiment complète. C'est-à-dire qu'il ne reste quasiment plus du tout de pétrole dans les transports en 2050. Il en reste seulement un peu dans le maritime et dans le transport aérien. Mais sinon, tous les transports terrestres sont complètement décarbonés, donc plus une seule goutte de pétrole dans les voitures, les camions, les trains, etc.
Oui.
Et pour atteindre cet objectif très ambitieux, puisqu'il nous reste un peu moins de 30 ans désormais, la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, comme on l'appelle en sigle, s'est fixée 5 leviers pour réduire du coup ces émissions de CO2 et réduire cette dépendance au pétrole, qui représente encore plus de 90% des consommations d'énergie des transports aujourd'hui. Et du coup, ces 5 leviers, donc le premier d'entre eux, c'est la demande de transport, la modération de la demande de transport, La demande, c'est un peu le volume de kilomètres parcourus, par exemple, que font les voyageurs. Et cette demande, par le passé, sur les dernières années, les dernières décennies, ça a été le principal facteur qui a expliqué l'évolution des émissions de CO2 au cours du temps. Donc, d'une année sur l'autre, finalement, le fait que les émissions augmentent ou pas, c'est souvent le fait que les usagers ont fait plus ou moins de kilomètres en fonction du prix du pétrole, un peu de la vitesse des mobilités ou de l'évolution du PIB. Et ça, à l'avenir, si jamais on veut modérer cette demande de transport, ça veut dire qu'il faut abandonner en quelque sorte le soutien qu'il peut y avoir aujourd'hui à l'ensemble des modes pour seulement soutenir les modes vraiment bas carbone.
Oui.
Et puis avoir un aménagement du territoire qui soit tourné justement vers ces modes de transport peu consommateurs d'énergie et peu émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on parlera tout à l'heure des mobilités actives.
Tout à fait.
Ça peut être aussi, et bien évidemment, les transports en commun qui sont aussi à développer. Ensuite, justement, ce deuxième levier, c'est celui du report modal.
Oui.
Donc, c'est de se tourner depuis les modes fortement consommateurs d'énergie, fortement émetteurs, que sont notamment pour la mobilité, l'avion et la voiture, vers justement ces autres mobilités plus sobres en carbone. Jusqu'à maintenant, ce levier-là a été beaucoup poussé par les politiques publiques, mais n'a pas encore produit énormément d'effets sur les émissions. Mmh. On a eu un faible report modal depuis un peu plus de 20 ans vers le transport ferroviaire, mais qui a un effet qui peut se mesurer à de l'ordre de 3% de baisse des émissions de CO2 via ce levier. Donc, c'est encore assez insuffisant. Et à l'avenir, les scénarios de prospective mettent en évidence un potentiel de moins 20% des émissions liées à ce levier. Ensuite, le troisième levier, ça va être celui du remplissage des véhicules. Donc, c'est notamment là-dessus qu'il y a le potentiel du covoiturage pour la mobilité en remplissant davantage les véhicules. Ensuite, le quatrième levier, ça va être celui de l'efficacité énergétique de ces véhicules.
Oui,
donc,
évidemment.
C'est faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie. Donc, à la fois, il y a des leviers technologiques. Donc, par exemple, des progrès techniques sur les moteurs. Ça peut être via l'électrification des véhicules. Il y a aussi des leviers de sobriété. Par exemple, la baisse de vitesse sur les routes ou développer des véhicules beaucoup plus légers. Ça permet aussi de faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, bien évidemment. Et puis enfin, le tout dernier levier, ça va être le levier de décarbonation de l'énergie. Donc, c'est justement de passer d'énergie carbonée, telle que le pétrole qu'on utilise énormément aujourd'hui, vers des énergies décarbonées. Donc là, c'est développer notamment la mobilité électrique. C'est essentiellement ça, notamment, qui va se développer sur la voiture, sur les véhicules les plus légers. Et après, pour les autres types de véhicules ou pour les autres modes de transport, ça peut être éventuellement aussi les biocarburants, le biogaz ou encore l'hydrogène, à condition, bien sûr, que toutes ces énergies-là soient produites de manière durable.
Oui, alors...
Donc, pour l'instant, c'est un levier, en tout cas, qui a peu évolué, et c'est un grand défi à l'avenir, bien sûr,
Mais alors justement, Aurélien, il faudra aussi convaincre de nombreux acteurs pour qu'ils se mettent tous ensemble à travailler pour atteindre ces objectifs, on est bien d'accord. Est-ce que vous pensez que tous les acteurs concernés justement par ces questions-là pourront se mettre d'accord pour un objectif atteint en tout cas en 2050?
C'est le grand défi en effet de coordonner tout ça et de passer à l'échelle suffisamment rapidement. En tout cas, il y a vraiment une réelle rupture qui est prévue dans la stratégie nationale bas carbone en termes d'émissions. Il faudra vraiment combiner les cinq leviers et que l'ensemble des acteurs concernés agissent de concert pour réussir la rupture qui est prévue dans la stratégie.
Ouais, il sera là le grand défi en tout cas. Fabien Laurent, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de conclure cette première table ronde? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Fabien Laurent, non, il est parti. Bon, eh bien, je vais vous laisser le mot de la fin, Aurélien Bigot. Qu'est-ce qu'il reste à dire ou à faire, justement, avant d'aborder dans cette seconde table ronde les solutions, innovation et partage de la voirie?
Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a deux grands leviers, si on essaie de regrouper certains des leviers que j'ai évoqués. Il y a à la fois les leviers technologiques, qui sont aujourd'hui déjà beaucoup portés à la fois par les politiques publiques et les acteurs privés. Puis il y a des leviers davantage de sobriété, d'aménagement du territoire, de changement de comportement, etc., qui cette fois-ci sont moins portés par notamment par les politiques publiques de ce qu'on peut en voir aujourd'hui. Et je pense que c'est le grand défi aussi de réussir, non pas seulement à développer les leviers technologiques qui sont dans tous les cas indispensables, mais aussi changer les modes de vie pour aller vers des modes de vie moins consommateurs d'énergie, de ressources et de carbone.
Alors, pardonnez-moi Aurélien, j'ai oublié de vous demander ce que c'était que la chaire énergie et prospérité. Vous pouvez nous en dire deux mots?
La chaire énergie et prospérité, c'est une chaire qui regroupe des entreprises de différentes écoles pour travailler sur les thématiques de transition énergétique et notamment sur les liens entre économie et transition énergétique.
Bon, bah écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup Aurélien Bigot d'avoir participé à cette première table ronde. On salue également Fabien Laurent qui est parti ou qui peut-être reviendra dans quelques instants. Merci à vous. Merci. Je vous propose maintenant de passer à cette seconde table ronde.
Les dossiers Construction 21, seconde table ronde.
Nous allons maintenant aborder les solutions, les innovations et le partage de la voirie avec nos prochains invités, Mathieu Pochon, Camille Thomé et Pascal Glasson. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Mathieu Pochon, vous êtes ingénieur en environnement indépendant, membre du comité de rue de l'avenir suisse. C'est comme ça qu'on dit, je ne me suis pas trompée ?
C'est tout juste. Oui.
Très bien. Alors, votre article donc, que vous avez, sur lequel vous vous êtes penché, qui porte le titre des espaces publics qui marchent pour le climat, a été coécrit avec Cédric Boussug, chef de projet espaces publics et piétons, et Nicolas Fourmanek, chef de projet aménagement de la voirie urbaine et adaptation au changement climatique au CEREMA. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, justement ? Comment vous avez travaillé, justement, sur ce sujet ?
Oui, volontiers. Donc c'est un article qui est en fait venu un peu dans la continuité d'une journée de rue de l'avenir suisse qui s'est organisée l'automne passé et puis qui portait sur la question de l'adaptation de l'espace public au changement climatique. Donc oui. Là, on était plutôt dans des questions d'adaptation face à la surchauffe urbaine qui devient maintenant une réalité. Et puis, ce sujet de la décarbonation qui était proposé ici invitait un peu à voir aussi les questions de marchabilité entre cet aspect de l'adaptation et puis de l'autre côté de la décarbonation nécessaire du système de mobilité. Donc en fait, l'article est un peu un écho aux différents exemples qui sont ressortis de ce travail qui a été fait à la journée rue de l'avenir 2020. Je ne sais pas s'il faut que je présente peut-être.
Oui, tout à fait. J'allais vous demander justement qu'est-ce que c'est que rue de l'avenir. Déjà, ça porte un joli nom. C'est sympa.
Oui, c'est vrai. Oui,
alors, rue de l'avenir.
Un nom assez porteur.
Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est un nom qui regarde vers l'avenir, mais qui est en même temps assez ancien, puisque Rue de l'Avenir Suisse fête ses 40 ans cette année. Donc, je tenais.
Ah, bah, joyeux anniversaire.
À la
rue de l'avenir, alors.
Alors, ouais. J'étais pas là quand ça a démarré. Mais, donc, Rue de l'Avenir Suisse, qui est une sœur française, Rue de l'Avenir France, sont deux associations qui ont pour but, qui ont un rôle de plateforme sur les questions d'urbanisme de proximité et qui visent à promouvoir la rue et l'espace public comme un espace de vie, pour faire court. Et donc, essayent par des journées d'études, par la publication de bulletins, de promouvoir différents exemples dans ce sens-là. Donc, voilà.
Donc, le but, c'est que la proximobilité soit le seul scénario qui permette d'atteindre l'objectif national, hein, on est d'accord ? En gros.
Alors justement, dans l'article qu'on a coécrit, on a un peu replacé justement la marche dans une vision un peu systémique des questions de décarbonation, dans l'idée où la marche en fait en soi n'est pas du tout émettrice de CO2 ou alors juste par la respiration de l'humain.
Alors si en plus vous allez nous empêcher de respirer maintenant, ça va être compliqué. Hein. Très bien.
Donc il y a une sorte d'évidence comme ça que la marche est un moyen de transport complètement neutre. Par contre, elle est complètement aussi, enfin ou très largement absente des politiques publiques dans ce sens-là. Ça, c'est un peu des constats qui sont faits. Et puis, pourtant, justement, l'étude qui était remise en avant et qui date de 2015. Une étude commanditée par la SNCF qui compare trois scénarios d'évolution de la mobilité à l'horizon 2050 en France.
Oui.
Et puis qui concluait que le seul scénario qui permettait de respecter les objectifs de la stratégie bas carbone était celui de la proximobilité qui, en fait, c'est un petit peu comme l'expliquait Aurélien Bigot, cumule à la fois un report modal, une altermobilité, à un effort assez conséquent en termes d'aménagement du territoire pour aide d'évolution des modes de vie pour aller vers plus de proximité, en fait. Donc ça, c'était important pour nous aussi de le remettre en avant parce que la marche là-dedans, elle a un fort rôle à jouer.
Alors, j'ai bien compris le message, Mathieu Pochon, mais comment est-ce qu'on pourrait, justement, dans le cadre de votre réflexion, améliorer le confort, justement, des piétons pour que ce soit plus simple parce que ce n'est pas toujours simple de prendre certaines aires ou certaines routes à pied. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça, en fait?
Alors, je pense que là, dans l'article, on a essayé de montrer un peu, à la fois, il y a toute une série de recettes qui sont maintenant quand même assez bien documentées, notamment par le CEREMA. Il y a des fiches sur la promotion de la marche à l'échelle des communes. Je pense que là, les collectivités locales ont un très grand rôle à jouer.
Oui.
Après, bien sûr, la question de l'aménagement du territoire a aussi un fort impact sur cette promotion de la marche, puisque l'organisation des territoires va aussi impacter les déplacements. Après, dans les solutions, finalement, ça se combine un peu avec ces questions à la fois qu'on connaît déjà de sécurité, de confort, aussi peut-être d'orientation.
Et d'accessibilité, effectivement, des trottoirs. Oui, très bien.
Disons que dans l'article, on a surtout voulu mettre en évidence les questions qui sont un peu mises en danger par l'adaptation au changement climatique, enfin disons si elle n'est pas faite, sur les questions de confort climatique, donc avec là, amener des ombrages, amener des lieux de repos, et puis bien sûr la végétalisation de l'espace massive, rue va aussi jouer un rôle important dans ce sens-là.
Très bien, très bien. Mathieu, vous restez avec nous, vous pourrez intervenir si vous le souhaitez. Alors, une fois maintenant qu'on a parlé de la marche à pied, on va parler du vélo avec Camille Thomé. Bonjour Camille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de Vélo et Territoire. Alors justement, vous n'avez pas rédigé l'article, mais vous représentez l'article puisqu'il a été rédigé par Stéphanie Mangin, chef de projet observation du vélo chez Vélo et Territoire. Merci d'être là et de la représenter. Alors justement, avec la crise Covid-19, l'utilisation du vélo a considérablement augmenté et clairement, on a tous remarqué le phénomène. Sur quel type de réflexion votre article s'est appuyé?
Alors, notre article s'est appuyé, pas tant sur une réflexion que par de l'observation tout à fait quantifiable et technologique pour le coup, par un outil qu'on appelle la plateforme nationale des fréquentations, qui est monitorée par Vélo et Territoire, mais qui agrège des données enregistrées par des compteurs disposés partout en France, par toutes sortes de collectivités en milieu urbain, périurbain ou rural, qui agrègent des données de compteurs vélo. On s'attache à compter le nombre de passages vélos enregistrés sur ces boucles ZELT, comme on dit dans le jargon, et qui nous ont raconté pas mal de choses l'année dernière. Alors avec le phénomène Covid, on a voulu démontrer ce qui se passait avant après confinement. Donc au départ, on a sorti des bulletins vélo et déconfinement pour voir si le confinement et l'ouverture progressive des foyers et de la mobilité donnaient deux, trois choses sur le vélo. Et force est de constater que oui, en 2020, hors période de confinement, le vélo en France a connu un boom de 27%. Oui. C'est tout à fait important, on n'a jamais vu ça.
C'est vrai qu'on a remarqué aussi, moi qui habite Paris, les fréquentations cyclables ont explosé. Alors, je crois que c'est plutôt une observation nationale. Hein. On est d'accord, hein?
Alors, nous, c'est évidemment une observation nationale. Bien sûr. Oui, tout à fait. Mais là où je vous donne raison, c'est que cette observation de boom de nombre de passages vélos enregistrés est particulièrement sensible en milieu urbain, des raisons que l'on imagine, évidemment. Tout d'abord, en milieu parisien, c'est particulièrement sensible avec le report de beaucoup d'utilisateurs des transports publics, notamment le métro, vers des mobilités plutôt de surface. Alors, il y a eu probablement beaucoup de reports modèles sur la marche à pied. Hein, ça, je pense aussi.
Comme le disait notre invité Mathieu Cochon.
Oui, tout à fait. Et puis sur le vélo, on a fait une petite campagne, le vélo, mon geste barrière. C'est vrai qu'à pied ou à vélo, non, mais on a la bonne distance, on est en plein air.
C'est
et la petite cerise sur le gâteau de l'utilisation du vélo, c'est qu'en plus, on n'est pas obligé de porter
le
masque.
Comme sur le scooter.
Les temps qui courent est particulièrement agréable.
Tout à fait.
Blague à part sur ces questions-là, on parlait de trajectoire, neutralité carbone.
Oui.
2050, ce type d'augmentation des fréquentations France entière ou que ce soit ville après ville, c'est ce type d'augmentation dont nous avons besoin chaque année et non pas juste en période Covid pour essayer pour espérer atteindre ces objectifs. Donc on est, la marche elle est quand même assez haute et pour avec tous les leviers qui sont à notre disposition et énoncés plus tôt, il va vraiment falloir faire beaucoup pour aménager le territoire, la ville et la vie autour des mobilités actives.
Donc clairement, le vélo s'oppose clairement en réponse hein, favorable aux besoins d'une mobilité du quotidien plus résiliente et décarbonée. Hein. C'est ce que vous êtes en train de nous dire en gros.
Ah oui, oui, alors peut-être qu'on mange un peu plus que les piétons et à ce titre-là, peut-être
déjà, que c'est certains d'entre vous ne respectent pas. Déjà, certains d'entre vous ne respectent pas les feux rouges. Alors ça...
Ah oui, mais ça n'est pas plus de carbone.
C'est vrai,
pour
c'est
autant.
Vrai.
Non, mais blague à part, c'est vrai que la ville et la vie et le territoire actuellement n'est pas construit et adapté pour les mobilités actives de manière générale. C'est mieux que ce que ça n'était pas avant. On a fait des progrès, mais la route est encore longue et très clairement, si le système dans lequel nous sommes en France avec des réseaux de routes incroyablement denses, maillées et structurées pour la voiture. On est encore loin du compte, que ce soit pour la marche ou pour le vélo. Et là-dessus, c'est là-dessus que l'action publique, l'action des acteurs publics et les collectivités du réseau vélo territoire doivent se porter.
Très bien. Alors, avant de donner la parole à Pascal Glasson, vous nous faites une petite présentation de Vélo et Territoire. Bon, on a compris que vous comptiez le nombre de vélos, hein, mais à part ça, vous faites autre chose quand même.
Oui, alors, entre autres petites choses, on compte les vélos, mais pas que France entière. Non, on compte les vélos dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de la Transition écologique, hein, à qui on fournit ces chiffres en lien avec les collectivités qui déposent ces fameux compteurs. Et ces collectivités sont en fait les adhérents de notre réseau. On fédère au sein de Vélo et Territoire 11 régions, 66 départements, conseils départementaux, et une grosse cinquantaine de PCI, comme on dit dans le jargon. Ça va du parc naturel régional du Haut-Languedoc en passant par la métropole du Grand Lyon ou de Nantes ou de Lille, métropole européenne. Ce qu'on leur offre aux collectivités du réseau, enfin leur offre, elles adhèrent pour ça, c'est pour le cap stratégique pour l'action qu'on leur propose et qui s'appelle France à vélo 2030 et qui globalement leur propose un cap stratégique qui est tout à fait en écho au plateau que nous avons aujourd'hui. Hein, comment est-ce qu'on décarbone la mobilité? Les objectifs du réseau, c'est achever les schémas vélos, les schémas directeurs, les itinéraires sécurisés et continus à horizon 2030 pour l'équilibre des territoires, ça vaut pour le schéma national, les schémas régionaux, départementaux, locaux, cyclables, bien évidemment. Oui. Ça entend, ce cap stratégique, faire du vélo un outil de mobilité à part entière et pas un outil de mobilité, mais après la voiture, s'il vous plaît. Hein, voilà, il y a un gros potentiel de report modal là-dessus. Faire de la France aussi une grande nation cyclable, on est clairement encore un pays en développement, la France.
Ah oui, le mot est fort. Hein. Très bien.
Oui, oui, on va pas avoir peur de le dire. Le plan vélo ambitionne 9% de part modal vélo à raison 2024, l'année des JO. On en est à péniblement 3% aujourd'hui, donc c'est énorme comme bond. Et la stratégie nationale bas carbone ambitionne 12% à raison 2030. Là encore, il va falloir se remonter les manches, et dans les grandes largeurs. Donc voilà les collectivités, ce vers quoi elles sont tournées.
Très bien. Camille Thomier, vous restez avec nous. Hein, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. On va dire bonjour à Pascal Glasson. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Bon, alors vous êtes directeur de projet et gestion des voiries et régulation des trafics pour le CEREMA. Un petit mot sur le CEREMA avant d'aborder le sujet avec vous ?
Oui, alors le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est un établissement public administratif sous double tutelle, ministère de la Transition écologique et ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et son objectif est d'apporter son expertise technique et scientifique auprès des services de l'État, des collectivités et des entreprises dans de nombreux domaines, dont la mobilité.
Très bien. L'article que nous allons aborder avec vous a pour titre « Les voies réservées, un outil au service de l'optimisation de l'usage des infrastructures routières ». C'est un article que vous avez coécrit avec Nicolas Moronval, chef du département innovation et développement. Alors, quelles sont les réflexions que vous avez développées dans le cadre justement de cet article, Pascal ?
Donc, l'objectif de l'article était de resituer les voies réservées, notamment en France, en disant que depuis plusieurs années, un travail est réalisé sur les voies réservées. On a vu apparaître d'abord des voies réservées au transport collectif il y a plusieurs dizaines d'années. Et maintenant, l'enjeu porte plutôt sur le développement de voies réservées au covoiturage. Et comme son nom l'indique, c'est réservé à la fois aux véhicules avec deux occupants ou plus, aux véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules à très faible émission, c'est à la fois les véhicules à hydrogène et les véhicules électriques. Et donc l'objectif, comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre de la stratégie bas carbone et des leviers qu'on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs, c'est de changer les comportements et donc de pousser les usagers à se diriger vers des mobilités moins émettrices, donc le covoiturage, les transports en commun, etc.
Très bien. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion sur l'avenir ? Est-ce que vous pensez que ça fera partie des objectifs réalisables ?
Alors, bien sûr. Alors, pour l'instant, les voies réservées au covoiturage, ça reste pour l'instant assez anecdotique,
hein, mine
de
rien,
en termes de projets réalisés. On a eu en France deux essais précurseurs en 2017 dans la commune de Mérignac et en 2018 à la douane de Tonnex-Vallard. Et les premiers gros projets qui sont sortis sont des projets qui sont sortis en 2020 sur l'autoroute A48, donc qui arrive sur Grenoble, et sur les routes métropolitaines M6 et M7 de part et d'autre du tunnel sous Fourvière du côté de Lyon. Donc finalement les deux premiers projets extrêmement importants, on parle de plus de 8 km d'aménagement à chaque fois.
Oui.
Les premiers projets date de l'année dernière. Donc,
est-ce que ces projets ont porté leurs fruits ? Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience là-dessus ?
Alors malheureusement, les retours d'expérience sont encore compliqués à faire dans la mesure où une voie réservée au covoiturage, pour faire simple, c'est une sorte de créneau de dépassement qui permet aux usagers autorisés finalement de gagner du temps par rapport aux autres usagers. Donc ces voies réservées sont aménagées sur des secteurs où il y a des congestions récurrentes et justement avec le Covid-19, il faut voir que les trafics ont baissé sur un certain nombre d'axes et finalement ces voies réservées sont finalement un peu moins utilisées du fait de la baisse générale du trafic. Donc il va falloir voir dans les prochains mois comment ça se passe, mais dans tous les cas le développement de ce type de voies réservées doit continuer. Faut noter que la Convention citoyenne pour le climat préconisait en juin 2020 d'étudier et d'expérimenter le déploiement de ces voies réservées sur l'ensemble des axes menant à des zones à faible émission, donc c'est-à-dire des zones dans lesquelles les véhicules les plus polluants sont interdites. Et cette proposition a été reprise dans l'article 28 du projet de loi climat et résilience. Donc on a bon espoir que dans les prochaines années ce genre de projet se multiplie et apparaisse sur l'ensemble des axes principaux des grandes agglomérations.
Et puis en plus, pour mettre ce genre d'infrastructure en place, il faut de la place, clairement, et qu'on ne peut pas faire ça sur tous les axes routiers de France. Et, on est d'accord, c'est compliqué, c'est complexe.
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la création d'une voie réservée peut se faire de deux façons différentes. Soit on crée de toute pièce une nouvelle voie en élargissant la plateforme. La solution retenue en France sur les différents projets qui ont été mis en service, c'est plutôt d'utiliser la voie de gauche comme voie de covoiturage à certaines heures. Donc, c'est-à-dire, on met de la signalisation dynamique, on met un losange au-dessus de la voie et de manière dynamique, cette voie est réservée aux périodes de pointe, donc les périodes où on a la congestion sur ces axes, on réserve cette voie au covoiturage. Donc finalement, la création d'une voie réservée nécessite uniquement, entre guillemets, de poser soit des équipements dynamiques, si elle est dynamique, soit des panneaux en disant de telle heure à telle heure, cette voie est réservée au covoiturage.
D'accord, très bien. On va peut-être demander justement à Camille Thomé ou à Mathieu Pochon s'ils veulent rajouter quelque chose avant de conclure cette deuxième table ronde. Mathieu Pochon, je vais peut-être vous donner la parole.
Oui, alors
est-ce que vous souhaitez rajouter, Mathieu?
Bon, je pense que la question que vous posiez de la répartition de l'attribution de l'espace peut en fait être, c'est le rebondissement que je ferais sur le vélo et la marche, c'est que selon les contextes, il faudra se poser la question de quel partage modal de la chaussée on veut avoir. Et il y a des priorités à calculer comme ça.
Bien sûr. Camille Thomé, vous voulez rajouter également quelque chose ou rebondir peut-être ?
Oui, à la question du partage de l'espace public, parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est un bien public finalement, et que le mieux est de pouvoir accommoder tout le monde, et si possible, en priorité les plus vulnérables étant bien évidemment les piétons éventuellement âgés, les piétons à mobilité réduite. Donc, partant de ce constat-là, il y a une question du rééquilibrage de l'espace qui va passer par une répartition, parce que l'hégémonie, elle est clairement sur l'automobile pour l'instant, et prioritairement, donc ça cette hégémonie-là doit tomber. Il y a aussi la question de l'apaisement des vitesses, parce que clairement, pour avoir une vie des courtes distances, parce que c'est pas l'apanage de la ville, faut quand même pas oublier ça. Il faut que les niveaux de vitesse entre un piéton et un automobiliste soient vraiment tempérés. Et ça, j'y crois moi personnellement beaucoup, y compris hors agglomération, parce qu'il n'y a pas que en agglomération qu'on a le droit d'avoir des zones à 20 à l'heure, à 30 à l'heure, ou etc. Ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, et ça, c'est plutôt, c'est clair qu'en milieu rural, il y a pas trop, à part le coût de ce que l'on met dans son réservoir de voiture, il y a pas trop d'entraves à la circulation motorisée. Voilà. Or, on sait très bien tous les pays qui sont parvenus, que ce soit localement ou nationalement, à rééquilibrer les modes. Ça s'est fait par de la contrainte aussi, y compris fiscale, sur l'automobile et sur ce qui, sociétalement, coûte très cher. Or, l'automobile et les modes carbonés individuels coûtent excessivement cher à la société, en termes de sécurité routière, de pollution, de bruit, de mort induite par la pollution atmosphérique, etc., etc. Et remettre une fiscalité équilibrée au regard de ce que ça coûte réellement auprès de l'individu, ça permettra de rétablir cet équilibre-là. Donc là, ça mériterait tout un autre débat, on va pas rentrer là-dedans, mais rétablir les choses et les équilibrer à tous égards, je trouve important d'insister sur ça.
Bon, et bien écoutez, le message est passé. Merci en tout cas à vous trois d'avoir participé à cette seconde table ronde. Mathieu Pochon, ingénieur en environnement indépendant, membre du comité de Rue de l'Avenir Suisse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Camille Thomé, directrice de Vélo et Territoire, et enfin Pascal Glasson, directeur de projet gestion des voiries et régulation des trafics pour le CEREMA. Je rappelle à tous ceux qui nous ont suivis que la majorité des articles, ou l'ensemble des articles d'ailleurs, évoqués aujourd'hui sont disponibles et consultables sur le site de Construction 21. Merci en tout cas d'avoir suivi ce nouveau dossier de Construction 21. On se retrouve très vite sur Radio Immo pour un autre dossier.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.